Au fil des pages. Au fil des pages, une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Bonjour, aujourd'hui au fil des pages, on aborde un sujet très délicat, les femmes. Il y a des femmes dont on chante les vertus et qui ont droit à tous les éloges, d'autres au contraire, qui sont parées de tous les vices et qui traînent derrière elles une mauvaise image. Et c'est le cas de celle dont nous allons parler aujourd'hui avec mon invité Joachim Boufflet. Joachim Boufflet, excusez-moi, je crois qu'on dit Joachim.
Peu importe.
Joachim Boufflet, alors on va dire. Alors, vous avez beaucoup écrit sur les femmes, et en général, toujours pour en dire du bien, puisque vous avez écrit sur des mystiques, et vous avez fait plusieurs biographies, celle d'Agnès de Langeac, de Thérèse Neumann, d'Edith Stein, et même de la Vierge Marie, enfin pas la biographie,
pas
mais vous avez parlé
la
de la Vierge Marie. Vous avez aussi fait une biographie sur le Padre Pio, c'est pour dire que le mysticisme et ses phénomènes sont votre spécialité. Et voilà qu'aujourd'hui, vous nous parlez d'une femme dont, à ma connaissance, personne ne savait qu'elle était mystique, Lucrèce Borgia. Qu'est-ce qui vous a fait choisir ce sujet? Vous publiez ce livre aux éditions des Presses de la Renaissance. Racontez-nous comment vous est venue cette idée.
Une idée très simple. D'abord, passant un jour à Ferrare, dans le couvent des Franciscains, je suis allé voir la tombe des ducs de Ferrare, enfin la nécropole. J'ai vu le tombeau de Lucrèce, puisqu'elle est enterrée là, et j'ai été très surpris de voir qu'il y avait des fleurs sur ce tombeau.
Des fleurs fraîches.
Fraîches.
Qui ne dataient pas de la Renaissance.
Non, pas du tout. C'eût été un miracle à son actif. Et je me suis étonné, et j'ai demandé pourquoi. Et le gardien du couvent des Franciscains, donc le supérieur, m'a dit, mais vous savez, elle n'a pas chez nous la réputation épouvantable que vous, les Français, lui avez faite. Elle est considérée, en tout cas à Ferrare, comme la bonne duchesse, la mère du peuple.
Alors cette mauvaise réputation, il faut bien dire, le coupable, c'est Victor Hugo.
Victor Hugo, oui. Hein,
c'est
Victor
lui
Hugo.
Qui nous a fait une Lucrèce Borgia abominable.
Tout à fait.
Assoiffée de sang.
Oui, empoisonneuse,
voilà.
Catin.
Voilà. Or, elle n'était pas du tout comme ça, la bonne duchesse.
Absolument,
de Ferrare.
Absolument, la bonne duchesse était une petite fille gâtée, pourrie même, qui a été très malheureuse, parce que ça arrive. Et qui a découvert au fil de ses malheurs que son chemin de réalisation personnelle passerait par la sainteté. Et elle a décidé, non pas d'être sainte au sens où on l'entendrait d'un saint canonisable, mais elle a décidé d'entrer dans les voies de la vertu, ce qu'on appelait la vertu à l'époque. Ce qui était relativement difficile et délicat compte tenu de sa situation à la cour de Ferrare. Elle était duchesse souveraine, elle était régnante. Difficile également à cause de sa parentèle, elle était fille de pape, et donc son père avait une très mauvaise réputation. Elle était également la sœur du terrible César Borgia, qui a mis l'Italie à feu et à sang pendant une dizaine d'années.
Et lourd héritage.
Lourd héritage,
voilà,
oui.
Alors vous dites qu'elle était la fille d'un pape. Est-ce que quand Alexandre VI, puisque c'est son nom de pape, donc Rodrigo Borgia de son nom,
oui.
Est-ce qu'Alexandre VI était déjà pape quand il a eu Lucrèce?
Non.
Non, il n'était pas encore pape.
Il a eu pratiquement tous ses enfants, et certainement tous, avant d'être élu pape.
Donc il n'était que cardinal.
Il était cardinal, chancelier de l'Église, un des plus hauts postes, peut-être le plus haut après celui du pape d'ailleurs.
Alors, ce que j'ai appris sur Alexandre VI, c'est qu'au fond, cette famille Borgia, que nous Français, nous croyons tous italiennes, en fait, elle n'est pas italienne, elle
non,
est espagnole.
Elle est espagnole, originaire du royaume de Valence, de la ville de Valence.
Et donc, le premier des
Alors, le premier, c'est l'oncle d'Alexandre VI, qui s'appelle
Calixte.
Le pape Calixte III, je crois, qui a fait venir son neveu à Rome, et qu'il l'a pourvu de toutes sortes de bénéfices, puisque c'était à la mode à l'époque, ça n'avait rien de choquant.
Voilà, et donc sans vouloir être prétentieux, mais peut-être parce qu'il ne faut jamais perdre une occasion de s'instruire, quand on fait venir son neveu et qu'on comble son neveu de faveur, il y a un mot en français qui n'est pas très fréquemment utilisé, mais qui s'appelle le népotisme.
Oui.
Voilà.
Tout à fait.
Donc Calixte III a pratiqué ce népotisme et Alexandre VI aussi.
Aussi, oui.
Donc,
c'était beaucoup plus que du népotisme, puisque lui, il casait ses enfants.
caser ses enfants. Donc, à ce fameux pape Alexandre VI, à quelle époque le situe-t-on?
Alors, il a régné de 1490-91, je ne me rappelle plus exactement, j'ai un trou, et il est mort 10 ans après. Donc, à la charnière du 15e et du 16e siècle, dans un monde en pleine effervescence.
Qu'est-ce qui se passait dans le monde à cette époque-là?
Eh bien, dans le monde, on vient de découvrir l'Amérique, Christophe
1492,
Colomb,
voilà. Comme tout le monde sait.
On a découvert l'Amérique. C'est d'ailleurs le pape Alexandre VI qui prend en charge le partage entre Portugais et Espagnols des nouvelles terres découvertes et qui également, il faut le souligner, refrène les appétits financiers et économiques des rois dits catholiques.
Isabelle et Ferdinand. Vous n'aimez pas beaucoup Isabelle la catholique, j'ai l'impression.
Non, je n'aime pas du tout Isabelle la catholique.
Elle n'est pas près d'être sainte, en tout cas pas grâce à vous. Revenons à votre livre, donc Lucrèce Borgia, aux éditions des Presses de la Renaissance. Vous avez fait, non pas une biographie, mais une forme de littéraire tout à fait passionnante, en tout cas qui rend votre livre très passionnant. C'est comme un journal.
Oui.
Est-ce que Lucrèce tenait un journal elle-même?
Non, elle écrivait beaucoup. On a perdu malheureusement une grande partie de la correspondance. Elle écrivait beaucoup, je ne crois pas, à ma connaissance en tout cas, qu'elle ait tenu un journal. Elle aurait pu le faire si elle avait eu le temps, à mon avis.
Alors, sur quel document vous vous êtes appuyé?
Alors, je me suis appuyé énormément sur la correspondance.
Oui.
Non seulement la sienne, mais celle de ses correspondants, de ses destinataires et de ses scripteurs. Alors, il y a bien sûr son amoureux, Pietro Bembo, dont on a dit qu'il y avait une liaison entre eux. Il y a la correspondance diplomatique de la cour de Ferrare, puisqu'elle était duchesse de Ferrare, donc avec toute sa famille. Il y a également une correspondance qui est beaucoup moins exploitée et beaucoup plus intéressante. Je ne crois pas qu'on l'ait encore soulignée, c'est la correspondance qu'elle a entretenue avec quelques grandes figures mystiques de son époque.
Qui, par exemple?
Les saintes vives, comme on appelait ces femmes, les saintes vivantes, qui étaient très souvent des stigmatisées, des extatiques. Alors elle a correspondu avec Arcangela Panigarola, qui était une moniale milanaise, avec Caterina Brugora, qui était une stigmatisée de Milan également. Elle a probablement correspondu avec la fameuse dominicaine de Ferrare, qui habitait donc dans sa cité, Lucie de Narni,
oui.
Etc. Donc, il y en a à peu près une dizaine, dont la plupart ne sont pas très connues du grand public.
Oui, ce qui prouve son intérêt pour les questions mystiques, en
tout cas.
Tout à fait. Elle voulait savoir ce que ces femmes vivaient,
voilà.
Éprouvaient.
Et puis en plus, elle allait très fréquemment se recueillir auprès de celles qui étaient proches lorsqu'un malheur la frappait. Elle cherchait un sens à sa vie auprès de ces femmes.
Alors Lucrèce Borgia, elle a eu 6 enfants et vous lui faites tenir ce journal, vous écrivez un peu à sa place ce journal,
oui.
Qui dure très peu de temps, 2 mois, mais qui sont les 2 derniers mois de sa vie.
Tout à fait, oui.
Donc le journal commence le 29 avril 1519 pour se terminer le jour de sa mort, le 24 juin 1419. Elle a 39 ans.
Oui.
Elle a été évidemment, elle est très belle, elle est enceinte et elle meurt des suites de ses couches. Elle met
fait.
Au monde un 7e enfant qui est
une petite fille.
Voilà.
Qui ne vit pas non plus d'ailleurs.
Voilà. Et vous pensez qu'elle aurait écrit pour ses enfants? Elle sentait ses enfants en danger?
Je crois qu'elle les sentait sinon en danger, tout au moins guettés. Par les appétits politiques qui se déchaînaient à l'époque. Une guerre venait d'opposer le pape Jules II et Ferrare, et le duché de Ferrare. Lucrèce et son mari avaient été excommuniés, l'interdit avait été jeté sur
leur duché.
Leur duché. Oui. Ensuite, il y avait les appétits de la Sérénissime, de la République de Venise, qui a toujours convoité une partie du duché de Ferrare. Pour avoir une plus large ouverture sur la mer, non pas seulement sur une lagune, mais une véritable bordure maritime. Il y a les appétits de Milan également, qui est une grande puissance, qui est en train de se reconstruire. Et puis, en trame de fond, il y a les guerres d'Italie, toutes les campagnes françaises, italiennes.
Voilà, donc, alors quels étaient les sentiments justement de Lucrèce par rapport à nos rois de France qui venaient guerroyer en Italie, plus que guerroyer, parce que c'était vraiment des guerres meurtrières. Donc,
Je crois qu'elle... Elle était francophile lorsque cela servait les intérêts de Ferrare. Mais Ferrare a toujours été, en revanche, le duché de Ferrare a toujours été un allié des Français.
Oui.
Donc elle était assez francophile. Elle a accueilli énormément de Français à sa cour, puisqu'elle tenait une cour de lettrés. Elle aimait la France, sauf à ne pas y habiter. Elle ne voulait pas vivre là-bas. Je suppose qu'elle avait peur de la brume et du froid. Et elle était également très pro-française parce qu'elle était très opposée, de cœur en tout cas, au roi catholique, à l'Espagne.
Oui. Donc à cette époque, il fallait choisir son clan. Oui, quand on n'était pas espagnol, on était
français ou impérial, ou... Voilà. Mais on était toujours quelque chose contre quelque chose.
Bon, alors y a-t-il eu des rencontres entre, entre Charles VIII, Louis XII et Lucrèce Borgia ?
Non, il n'y a pas eu de rencontre entre eux, mais en revanche, elle a rencontré Bayard, le chevalier Bayard, bon. Qui a écrit son éloge.
Bon.
Et qui a été, semble-t-il, très sous le charme de sa beauté, et non seulement de sa beauté, mais de sa culture.
Alors, vous dites qu'elle entretenait une cour littéraire, elle protégeait donc les artistes du duché,
oui.
De Ferrare.
Même de l'extérieur, elle en faisait venir, elle était en grande rivalité avec sa belle-sœur, donc la sœur de son mari, Isabelle d'Este, mm-hmm. que l'on présente comme la femme parfaite de la Renaissance, qui est une redoutable garce, mais enfin bon, ça c'est une autre histoire.
Ah, vous ne l'aimez pas non plus, celle-ci.
Non. Et elle lui piquait les artistes de sa cour.
Alors, l'Arioste, qui est le plus connu des poètes qu'elle protégeait.
Tout à fait, il y a l'Arioste, il y a des musiciens, elle a connu Josquin des Prés également, quand même pas n'importe qui. Elle a essayé de faire venir Raphaël, qui était lui dans le duché d'Urbino. Elle a réussi à s'attacher de Titien, qui a fait...
Oui, qui a fait des portraits d'elle.
Oui, tout à fait, il a fait deux très beaux portraits d'elle.
Alors, elle est comment physiquement ? Décrivez-nous le portrait du Titien.
Le Titien, il l'a peinte quand elle avait la trentaine épanouie, donc elle correspond un peu au type de la femme à l'époque. Elle est assez ronde, assez belle, encore qu'on la trouvait maigre, donc elle était beaucoup plus menue que les femmes de son temps. On sait que jeune, elle était très fine et très menue, ça on le sait. On a une belle fresque dans les salles Borgia du Vatican qui doit la représenter, il y a de très fortes chances, c'est la comparution de Catherine d'Alexandrie, la bataille des devant les philosophes, où on voit une jeune femme blonde, avec de très grands cheveux blonds, avec un petit menton, une fossette au menton, un petit nez droit, de très beaux yeux bleu-vert.
Et je suppose qu'elle avait une immense culture parce que son père avait dû lui donner une...
Pas tellement, non. En fait. Elle s'est fait sa culture elle-même.
Elle était un peu autodidacte.
Autodidacte, c'est peut-être beaucoup dire, mais enfin, son père l'a confiée à une cousine pour l'éduquer. La cousine lui a appris les bonnes manières, mais elle ne s'est pas tellement souciée de, disons, sa formation littéraire, sa formation même scientifique, elle aurait pu le faire. Et elle s'est beaucoup intéressée d'elle-même aux langues anciennes déjà, au latin ou au grec, elle les parlait, elle les écrivait assez bien, semble-t-il, en tout cas le latin. Elle parlait le français, elle parlait le valencien, puisqu'elle a toujours eu la nostalgie idéaliste d'ailleurs du pays des origines, de cette outre-mer qu'elle souhaitait tellement voir un jour et qu'elle n'a jamais vue. Elle parlait le toscan qui était...
Une langue
à l'époque qui n'était pas l'italien, c'était ce qui était destiné à donner les fondements de la langue italienne plus tard, mais c'était une langue à part. Donc elle s'est beaucoup cultivée au contact de personnes qui la séduisaient.
Et alors quelles étaient ses relations avec son fameux frère, alors César Borgia, bien qu'elle ait eu d'autres frères?
Alors elle a eu trois frères connus, elle a eu César le plus connu, le prince de Machiavel, elle a eu Juan... Le deuxième, qui est devenu duc de Gandie par son mariage et qui est l'ancêtre de Saint-François Borgia.
Ah oui, il y a un saint dans cette famille. Parlez-nous du saint, vous qui êtes le spécialiste des
alors,
saints.
Alors bien, Saint-François Borgia est le petit-neveu de Lucrèce, tout à fait.
Et donc, est-ce qu'il n'était pas jésuite ?
Si, il était d'abord marié à Léonore de Castro. Et ensuite, il a assisté, on connaît cette légende ou histoire, je crois que c'est plus une histoire qu'une légende d'ailleurs, qui a été peinte maintes fois. Il a assisté au transfert du cercueil de l'impératrice, la femme de Charles Quint, et il a fallu procéder à une reconnaissance officielle avant de l'inhumer. Et on a ouvert le cercueil, il a vu cette femme qu'il avait connue très belle et toute jeune, puisqu'elle est morte assez jeune, elle est morte à 30 ans à peu près. Il l'a vue dans un état de décomposition avancé. Qu'il l'a fait...
Un psychochoc,
oui. Tout à fait.
Conduit à la conversion.
Et il était déjà très pieux. Hein. C'était une famille extrêmement fervente. Sa femme partageait ses convictions religieuses. Ils avaient plusieurs enfants, donc l'héritage a pu se perpétrer. Et il, à la mort de sa femme, il est entré chez les jésuites, tout simplement.
Donc les jésuites comptent au moins deux saints, peut-être d'autres, Ignace de Loyola, espagnol, et François de Borgia, espagnol aussi.
Et François-Xavier.
Et François-Xavier, donc ça, oui, c'est vrai, j'allais l'oublier,
entre autres,
quand même, les jésuites vont m'en vouloir.
Et Claude la Colombière, par El Manial, quatre, mais il y en a d'autres encore, et les martyrs du Canada, etc., etc.
Bon,
mais
bien.
Alors donc, François donc, est rentré chez les jésuites et il a été en fait le troisième successeur, le troisième général des jésuites, le deuxième successeur d'Ignace.
Alors, nous parlions donc de Lucrèce Borgia, qui est le, comment peut-on dire, le journal que Joachim Boufflet a attribué, a prêté, enfin, vous avez prêté votre plume à Lucrèce pour qu'elle exprime à la fois tous ses sentiments, ses souvenirs, qui sont bons, pas tous très bons,
pas tous
mais
très bons,
certains très douloureux.
Oui.
Et donc, ce livre se lit vraiment avec un très, très grand bonheur. Quand on aime en plus l'époque de la Renaissance,
oui,
qu'on s'y retrouve dans tous ces personnages, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup.
Il y en a beaucoup, oui.
Donc, ce livre, je le recommande, Lucrèce Borgia, par Joachim Boufflet, aux éditions des Presses de la Renaissance. Thank you.